France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernat.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. C'est l'une des statistiques les plus étonnantes de cette Coupe du Monde. Samedi, l'Islande jouait contre l'Argentine, score final 1 partout. Et selon la Fédération de football islandaise, 99,6% de la population était devant sa télé pour regarder le match. Hein. Les Islandais sont un peu plus de 350 000 sur l'île, donc 99,6%. Mais où étaient les 0,4% autres? Eh bien, tout simplement en Russie. Et oui, pour suivre le match. En gros, s'il y a un problème dans le monde pendant un mois, faut pas compter sur les Islandais. En tout cas, ça, c'est noté. Et eux, ils dribblent sur la pelouse de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Albert Zemmour, bonsoir, du Figaro. Également, Cécilia Gabizon, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes directrice de la... C'est pas drôle, de la Street School. Qu'est-ce que c'est que la Street School, Cécilia?
Alors, la Street School, c'est une école de journalisme gratuite qui recrute à la motivation. Et justement, en ce moment, on a lancé des candidatures pour la Street School Paris qui démontrera à la rentrée. Mais il faut s'inscrire maintenant, Street School, sur Facebook.
Très bien. Et également, Christophe Pirel, bonsoir.
Bonsoir. Êtes... C'est mieux que Parcoursup, en fait.
Ah, ben je ne sais pas. Sans
voilà. C'est plus accueillant. C'est plus accueillant.
Voilà. Vous êtes l'ancien directeur de cabinet de François Hollande et Sylvie Vincenton, bonsoir.
Bonsoir.
De Libération. Et ce soir, faut-il être cash pour s'affirmer? Le conseil psy du jour. SNCF, la grande discorde, asile et immigration, l'étranger. Tempo, mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Allez les gars, tous à Berlin. Ouais. Ah bah quand on délocalise le Conseil des ministres, il y a toujours une petite excitation. Hein. On va prendre l'avion tous ensemble, on se pousse pour trouver la meilleure place, on fait des oreilles d'âne à Jean-Michel Blanquer. Eh hey, Bruno Le Maire, t'es en classe éco. Voilà, on n'hésite pas les calembours hein, du Nouveau Monde. Réuni au château de Meissenberg, ce Conseil des ministres franco-allemand devait consacrer de nouvelles avancées pour l'union économique et monétaire. Mais la crise traversée par la chancelière allemande et la non-entente des Européens sur l'accueil des migrants ont un peu changé les plans. On a parlé un peu d'euro et beaucoup de migrants et concernant les propositions. Vous allez l'entendre, il y a comme de l'écho, Emmanuel Macron.
Nous croyons très profondément à une réponse européenne face au défi migratoire. Ce défi, nous ne venons pas de le découvrir. Nous ne l'avons pas découvert la semaine dernière. Mais nous sommes très clairement ensemble déterminés à agir de manière européenne et de manière coordonnée.
Voilà, Emmanuel Macron cet après-midi à Berlin. Christophe Pirel, ça ressemble quand même à ce qui avait déjà été dit. Emmanuel Macron a fait ses mêmes propositions il y a un an, déjà sur ses hotspots, sur la solidarité européenne. Tout le monde dit il faut plus d'Europe, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire en fait.
C'est même pire que ça, c'est que ça fait pas depuis Emmanuel Macron, c'est que ça fait déjà avant. C'est-à-dire même sous François Hollande, même sous Nicolas Sarkozy, on ne fait que parler d'Europe, mais en fait on n'agit pas. Et moi, ce qui m'inquiète, mais profondément, j'ai écouté tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et c'est que face aux défis qui sont devant nous, c'est-à-dire vous avez des pays aujourd'hui qui versent dans le populisme, des peuples entiers qui ont une vraie défiance sur l'Europe, on a une vraie crise migratoire et la réponse c'est on va réformer la zone euro. C'est-à-dire que comme si les peuples aujourd'hui attendaient la réforme de la zone euro.
Ça peut faire aussi partie de l'Europe aussi.
Sauf qu'on se rend compte en fait que le vrai problème de l'Union européenne depuis longtemps c'est d'avoir tout ciblé, tout misé sur l'économie et d'avoir rien fait pour les peuples et on continue dans cette démarche-là. C'est quand même aberrant. Et je suis très en colère parce que je me dis que l'Europe a peut-être une chance de s'en sortir. Si on a un peu de courage et qu'on prend le taureau par les cornes en se disant il y a des défis devant nous, ce qu'il dit d'ailleurs. Mais on a des vraies solutions parce que dire qu'il y a des défis devant nous et que l'Europe doit y répondre, ok, c'est plutôt la bonne réponse. Et à la rigueur, c'est celle qu'on entend depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'on met derrière? C'est quoi régler la crise migratoire? Comment on gère tout ça? Comment on va prendre Donald Trump et comment on lui résiste? Alors, et comment on résiste à Poutine? Enfin, c'est ça les grands enjeux. Et là, on a l'impression d'avoir des bons élèves qui nous parlent à nouveau d'économie.
C'est, voilà.
C'est pas très, très excitant.
La chancelière et le président là, se sont accordés, on l'a entendu, sur un budget commun de la zone euro. Mais l'annonce, en fait, semble totalement étouffée, en fait, par rapport aux différents défis et notamment par rapport à l'actualité des migrants, notamment qui a ressurgi la semaine dernière avec l'Aquarius. On a l'impression que ça tombe totalement dans le vide.
Ouais, complètement, parce que c'est vrai que là on est sur la crise migratoire et puis finalement, enfin, on n'est pas simplement sur la crise migratoire du moment. On est, je rejoins ce qui a été dit, on est sur la crise migratoire continue depuis des années. Et effectivement, mais des
enfin, elle est un peu accélérée par
accélérée, mais des micro-mesures, des micro-mesures, des micro-mesures, avec bon. Et finalement, on sent pas la portée de la réponse qui concerne vraiment les défis de l'Europe. Moi là, je suis super inquiète, comme citoyenne, super inquiète du populisme. C'est-à-dire là, on est menacé de toutes parts. On est menacé par le populisme partout. Autour de nous, chez nous en France, et on sent, je veux dire, parmi nos proches, c'est pas la menace théorique du populisme, c'est on le voit les uns après les autres, les gens tombent dans une forme de populisme aujourd'hui. Et si la réponse est de dire on va avoir un budget commun européen, je crains que ça ne suffise pas pour les sortir de cet état d'esprit. On est gouverné par l'angoisse, par la peur.
Albert Zinoukour, oui.
Allez-y. Le populisme, oui, mais il y a un défi auquel l'Europe est confrontée, auquel elle doit répondre. Alors c'est vrai que derrière le mot « il faut une réponse européenne », on ne sait jamais ce que
oui,
ça veut dire.
Mmh.
Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a des bateaux comme l'Aquarius qui sont en mer, qui vont bientôt arriver. Que va faire l'Europe? Que va faire la France? Que va faire l'Italie? L'Italie, visiblement, ne veut plus de bateaux, que les bateaux accostent sur ses côtes. Que va-t-on faire? Il y a une vraie réponse à donner. Et les peuples, aujourd'hui, je suis désolé, il y a du populisme, mais les peuples ne veulent plus de flux migratoires aussi importants. On le voit dans les pays de l'Ouest, on les voit dans les pays de l'Est. C'est très fort. Il faut bien aussi prendre en compte les aspirations du peuple. Alors, si le populisme, c'est dire à chaque fois ce que veut le peuple, on n'en veut pas, et c'est pas bien, on va pas aller loin.
Je suis très gênée par la notion de le peuple. Il y a des gens dans les opinions de tous ces pays qui sont effectivement très anti-immigration, très d'extrême droite. Et puis en même temps, il y a des gens qui ont mis
France,
des banderoles
la majorité des Français,
pour accueillir l'Aquarius. Donc peut-être que, et je vois quand même qu'en Italie du Sud, à Syracuse, les gens ont accueilli véritablement. Donc c'est pas aussi monolithique que ça. L'autre chose, c'est qu'effectivement, là où l'Europe elle est impuissante, c'est qu'elle n'existe pas en tant qu'Europe. Tout le monde est tellement affairé à ses affaires personnelles. Quand on voit Merkel avec quoi elle se bat aujourd'hui, c'est-à-dire avec son ministre de l'Intérieur, le chef des Bavarois, qui dit on est à égalité parce que moi aussi je suis chef d'un parti et donc si je décide que je vais fermer les frontières, je vais le faire. J'imagine que Gérard Collomb dise une chose pareille, on serait
Je ne sais pas. On l'entendra peut-être. En tout cas, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Ces deux adolescents sont reconnus coupables du meurtre d'un couturier chinois à Aubervilliers, Shaoling Zhang. C'était pendant l'été 2016. La cour d'assises des mineurs de Bobigny les condamne ce soir à 10 et 4 ans de prison ferme. L'avocat général avait requis 15 et 8 ans. Marine Le Pen doit bien rembourser 300 000 euros au Parlement européen. Nouveau revers pour la présidente du Front National qui le contestait devant la justice européenne. Elle doit bien rendre la somme en raison de l'emploi douteux d'une assistante parlementaire quand elle était députée européenne. Le taux de chômage devrait recommencer à baisser en France jusqu'à 8,8% d'ici la fin de l'année. Les chiffres sont communiqués ce soir par l'INSEE qui table sur une croissance à 1,7% fin décembre. Les prévisionnistes estiment que les grèves à la SNCF et Air France ont fait perdre 0,1 point de PIB à la croissance au deuxième trimestre. La SNCF, justement, passé juillet, il n'y aura pas de grève unitaire. Un intersyndical se tient depuis 18 heures pour étudier les suites de l'action des cheminots contre la réforme ferroviaire. Mais le syndicat UNSA annonce d'ores et déjà qu'il n'ira pas au-delà du calendrier de grève programmé jusqu'au 28 juin. Depuis une dizaine de minutes, la Russie joue son deuxième match du mondial face à l'Égypte. Juste avant, le Sénégal s'est offert la Pologne 2-1. Sur le même score, 2-1, le Japon a fait tomber la Colombie.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Aujourd'hui, il y avait un conseil des ministres commun entre l'Allemagne et la France. Et normalement, on devait parler économie. Et c'est bien sûr les migrants qui ont pris toutes les discussions. Alors, il y a bien sûr un budget commun. Il pourrait y avoir un budget commun, comme annoncé par Angela Merkel et Emmanuel Macron. Mais même Emmanuel Macron parle actuellement de l'Europe comme un possible choix de civilisation pour résister à la pression populiste. Et ce matin, le ministre de l'économie était vraiment en pleine forme et très motivé par rapport à l'idée européenne. Puisque voilà ce qu'il a déclaré, Bruno Le Maire.
Je pense que l'Europe est dans un processus de décomposition.
Désintégration.
Sous nos yeux, de décomposition. On voit les États qui se replient sur eux-mêmes, qui essayent de trouver des solutions nationales à des problèmes qui ne peuvent avoir de solution que européenne. Donc je crois qu'il est indispensable, c'est ce qu'a fait le président de la République depuis le début de son mandat, de proposer un nouveau projet européen sur l'immigration, sur les questions économiques, sur les questions financières, pour consolider l'Europe dans un monde où vous avez d'un côté les États-Unis, de l'autre la Chine, et où nous sommes pris en étau.
Voilà, Bruno Le Maire, ce matin sur BFM, Sia Gabizon, vraiment état de décomposition?
En tout cas, on peut s'en inquiéter. C'est vrai que qui porte l'idée européenne, elle s'incarne dans quoi? Aujourd'hui, dès qu'on doit prendre des décisions communes, chacun se renvoie les migrants. Non, il est rentré par le point A, on va le faire retourner par la petite porte où il est venu. Le budget commun, ça pourrait être une annonce intéressante d'ailleurs, parce que tout à l'heure, l'a évacué du genre, on s'en fout. Tombe au milieu d'une séquence de crise où tout d'un coup, on se dit, bah, effectivement, la réponse, on va faire de l'économie. Mais un budget commun, en vrai, ça serait aussi une action commune. Donc, quelque part, s'il y avait de la co-construction sur ce qu'on fait de ce budget commun, c'est intéressant de se dire sur quoi est-ce qu'on décide de faire porter nos choix de civilisation, justement, qui est notamment sur un système social, sur un système d'éducation. Enfin, il y a des vrais choix de civilisation. Et donc, au-delà de la question et de la crise migratoire, voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'Europe, on sent qu'elle ne tient plus que quelque part que par des normes, c'est-à-dire ces fameuses normes qu'on reprochait. Ouais. C'est un corpus de règles qui tient l'Europe encore ensemble.
Ah ben voilà, Christophe Pirel.
Mais c'est ce qui est dingue, et c'est exactement ça, c'est que on ne sait plus ce que c'est que l'Europe. C'est quoi? C'est quoi les valeurs de l'Union européenne? C'est quoi l'Europe au milieu justement de la Russie, des États-Unis qui aujourd'hui sont quand même très 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 porté vers les populismes aussi. Donc c'est-à-dire que c'est quoi notre place, c'est quoi notre discours de valeur sur la question des migrants? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'un bateau arrive, on sait plus quoi en faire, il y a pas de réponse européenne, c'est-à-dire que c'est pas moi, c'est moi je le prends pas, moi je le prends pas, toi tu le prends, enfin c'est quoi cette manière de gérer la migration?
Parce que non, mais là on est sur on parle de ça, mais on se souvient quand ça a commencé en 2015. En 2015, c'est vrai que par Manuel Valls était très dur, notamment envers Angela Merkel. Il avait été à Berlin visiter il l'avait engueulé sur place dans son pays.
Non, mais bien évidemment. Et moi d'ailleurs, quand j'ai écrit un bouquin sur le Front National, j'ai même ciblé ça comme étant une des raisons de la montée du Front National, c'est qu'on joue avec les peurs dans nos pays. On a trop joué avec les peurs. On n'a pas réaffirmé ce qu'on était en termes de valeurs. Qu'est-ce que c'est que la République française? Qu'est-ce que c'est que l'Union européenne? Et c'est quoi notre socle commun? Pourquoi on s'est construit ensemble? Comment on en est arrivé là? On est le fruit de plusieurs guerres. Et on a réussi justement à faire un peuple européen avec une somme de valeurs. Et aujourd'hui, c'est quoi l'Union européenne? C'est l'incapacité à se réaffirmer et à justement accueillir ceux qui viennent de l'extérieur. La question, c'est pas aujourd'hui est-ce qu'on est pour ou contre l'immigration. C'est que les migrations, elles existent. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on gère ça au niveau planétaire? C'est ça la vraie question. C'est pas de savoir si on est pour ou contre l'immigration.
Juste une chose. Le 28 juin prochain, il y a un conseil européen. L'idée d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel, c'est de convaincre leurs partenaires, c'est-à-dire les 26 autres sur ce sujet, c'est-à-dire financer des hotspots, mieux protéger les frontières. Est-ce qu'ils ont une chance de réussir? Et surtout, quand
sachant
on voit
sachant qu'ils doivent convaincre aussi dans leur microcosme intérieur,
c'est ça.
Puisque pour Angela Merkel, c'est vraiment pas gagné à l'interne, et pour Macron, je pense que ce n'est pas gagné à l'interne non plus par rapport à son opinion, parce que malgré tout, le coup du bateau, je suis pas sûre que ça laisse pas quelques traces. Que ce soit les Corses qui aient dit « nous, on est accueillants, on ouvre nos ports », alors je sais qu'ils ne sont pas autonomes, ils n'ont pas, c'est pas un État.
C'est une région française.
D'accord, c'est une région française, ok.
Ils mais sont pas encore autonomes.
Ouais. Néanmoins, en termes d'image, c'est quand même dévastateur pour Macron d'avoir fait ça. Et l'autre chose, c'est qu'on a le sentiment quand même que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, alors je ne parle même pas des Italiens qui sont au-delà du réel, mais il y a un effet de panique. On a l'impression que chaque mesure, chaque sortie, chaque mot est créé au jour le jour, quoi. Et que, effectivement, de stratégie, on est bien, bien loin d'une stratégie.
Quand Manuel Valls, justement, tapait sur Angela Merkel, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron saluait la politique migratoire d'Angela
Merkel.
Et lui, il disait qu'il fallait plus accueillir. Et aujourd'hui qu'il est au pouvoir, dès qu'il y a un bateau qui arrive, il n'est plus là. Il n'y a plus de réponse, il n'y a plus rien qui se passe.
Je rappelle quand même que la crise migratoire, c'est quand même plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions depuis 2015, de migrants, de réfugiés, comme on les appelle comme on veut, qui sont arrivés sur les côtes européennes, enfin en Europe en tous les cas. Donc c'est impactant.
Et d'abord en Turquie, et d'abord au Liban, et d'abord dans les pays
voisins. Ils sont là. Donc et les mesures prônées, parce qu'elles sont pas encore adoptées, mais les mesures prônées par Macron et Merkel, les hotspots. ça n'est pas gênant pour le reste de l'Union européenne. Dire qu'on accueillera, on accueillerait des réfugiés, on les laisserait en Libye pour les trier au Sénégal, enfin dans le Sahel, en gros, ce serait pas gênant. On va les payer et puis ce sera tout. Le problème, c'est comment régler malgré tout le flux continu. C'est arrêter le flux. C'est ce que veulent les opinions publiques. Alors,
des opinions publiques, il faut juste aussi le rappeler. C'est vrai qu'en France, par rapport à l'Italie, il y a une pression migratoire en France qui est moindre quand même en Italie, qui a été très très forte.
Il y a eu 100 000 demandes d'asile en 2017 en France. Il y a eu 100 000 demandes d'asile qui étaient en très forte augmentation. 100 000 demandes d'asile en France et il y en a 35% qui ont abouti. C'est pas non plus
sachant que les déboutés restent malgré tout, et c'est que ça, ce ne sont que les demandes d'asile.
Il n'y a pas d'invasion quand même.
Alors,
France,
il n'y a pas d'invasion
migratoire. Mais comme l'a dit Gérard Collomb, avait parlé de submersion.
Alors, on discute avec la maire de Gaziantep. Gaziantep, c'est une ville qui est à la frontière de la Syrie et de la Turquie. Elle a accueilli 1,5 million de réfugiés. Ils ont un système scolaire pour les réfugiés, les enfants des réfugiés qui sont dans les camps de réfugiés. Ils touchent de l'argent de l'UE pour faire ça, d'accord, mais ils le font quand même. Et malgré tout, ils arrivent à faire un minimum d'accueil civilisé pour ces gens. Oui. Donc peut-être que nous, on est très contents de les payer pour le faire plutôt que de les accueillir et d'intégrer une certaine quantité à notre tour. Mais néanmoins, c'est dans ces pays-là qu'il y a véritablement beaucoup de réfugiés, chez nous.
Il y a un hasard total de l'actualité, puisque la semaine dernière, le sort du bateau Aquarius occupait tous les commentaires. Aujourd'hui, c'est la loi dite asile et migration qui arrive au Sénat. Si vous étiez près du palais du Luxembourg ce matin, vous avez peut-être aperçu cette montagne de gilets de sauvetage posée devant le Sénat, 348, exactement le nombre de sénateurs. Le geste d'association afin de sensibiliser les élus au drame des naufrages. On se souvient des débats houleux à l'Assemblée nationale. Au Sénat, cela devrait être la même chose, puisque la majorité de droite trouve le texte laxiste et inutile, alors que la gauche parle d'un projet de loi, je cite, inhumain. On écoute la sénatrice écologiste Esther Benbassa.
Heureusement qu'il y a les solidaires, les délinquants solidaires pour qui nous nous battrons aussi, qui sont la face riante d'une France qui veut aider les exilés, qui s'entassent dans les rues, qui s'entassent sous les métros, qui sont dans les centres de rétention.
Voilà, alors ça, c'est Esther Benbassa, donc elle est sénatrice. Albert Zinou, les débats peuvent-ils être sereins justement une semaine après l'Aquarius?
Ils vont forcément marquer les débats. Le Sénat, enfin la majorité de droite au Sénat, déjà en commission, a adopté, a durci le texte sur le groupement familial, qui pour l'instant
était délit de solidarité.
Sur le groupement familial qui était pour l'instant offert aux enfants qui pouvaient faire venir leurs parents. Le texte adopté à l'Assemblée pouvait faire venir les frères et sœurs. Là, c'est arrêté. Il y a beaucoup, pas mal de choses où le texte a été durci. Bien sûr que ça va noter et ça va impacter la qualité des débats. Mais de toute façon, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot.
Tranchera, oui, de toute façon. Allez, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Le défenseur des droits va enquêter sur les pratiques du service adoption de Seine-Maritime. Une annonce alors que la responsable de ce service du conseil départemental crée la polémique. Elle explique que les couples homosexuels ne sont pas prioritaires pour adopter et qu'ils doivent s'ouvrir à des enfants ou des profils atypiques. Jacques Toubon, le défenseur des droits, rappelle sur Twitter « Les enfants sont égaux et toutes les familles aussi ». La France et l'Allemagne se mettent d'accord sur la création d'un budget de la zone euro. Confirmation d'Emmanuel Macron et Angela Merkel cet après-midi à l'occasion d'un sommet depuis Berlin. Le président de la République espère dès 2021 un vrai budget avec des dépenses et des recettes. Face à l'afflux des réfugiés, cette fois français et allemands veulent une réponse européenne et coordonnée. Pour l'ONU, cet après-midi, le haut commissaire aux réfugiés prône la coopération et non une résolution de cette question pays par pays. Le projet de loi asile-immigration est désormais devant les sénateurs. Après des débats passionnés à l'Assemblée nationale, la droite majoritaire entend durcir ce texte du gouvernement. Jacqueline Gourault représente le ministre de l'Intérieur. Elle rappelle que les mesures à examiner visent bien à lutter contre l'immigration illégale. L'Arc de Triomphe, le château de Versailles ou encore le musée d'Orsay fermés aujourd'hui à cause d'une grève. Plusieurs syndicats protestaient contre un projet de réorganisation souhaité par le ministère de la Culture. Ils accusent le gouvernement de vouloir se débarrasser de 1500 fonctionnaires en les plaçant sous la tutelle d'établissements publics culturels, ce que conteste le ministère.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernas.
Je suis Jean-Mathieu.
Les informés de France. Voilà, ça discute un petit peu. Voilà, vous savez, il y a certains noms comme ça qui font débat. On parle de la loi asile-immigration qui passe maintenant au Sénat après des débats, en effet, houleux à l'Assemblée nationale. Cécile Gabizon, c'est vrai que tout à l'heure, on en parlait, Emmanuel Macron avait, par rapport à l'accueil des migrants, pendant la présidentielle, cité Angela Merkel. Quand on voit cette loi, on n'est pas du tout la même manière qu'Angela Merkel. Pourquoi il a changé d'avis sur ce sujet?
Bon, déjà, de toute façon, la loi asile est toujours une loi, non pas de gestion des migrants. C'est pas une loi d'accueil. Ouais. C'est une loi de comment on va pouvoir les repousser. Déjà avant, et puis elle continue, ce texte continue de resserrer. En fait, voilà, ça n'a jamais été une loi d'accueil. Hein. Même, je pense que lui, à titre personnel, de ce que j'en sais, c'était probablement quelqu'un qui était qui est, j'espère, toujours un progressiste et qui voilà et un libéral aussi. Ouais. Et un libéral. Donc quelque part, il y a aussi dans une forme de chacun va faire sa voix et on accueille. Et puis après, bah, aujourd'hui, il surveille complètement son opinion et puis il maintient un équilibre. C'est vrai que on ne sait pas très bien quelle est l'opinion en fait en France. Bien sûr, il y a des enquêtes qui te disent les gens ont peur des migrants, ils ont peur de l'immigration, ils associent plein de gens à des migrants qui ne sont pas des migrants. Enfin, on confond tout quelque part. C'est-à-dire que tout ce qui est un peu basané est devenu migrant quand même. Et j'en suis un peu là. Voilà. On est tout d'un coup dénationalisé assez vite comme ça au passage. Il y a une crainte qui fait qu'on doit constamment se justifier de qui on est, de son adhésion à la France. Et lui, il gère cette opinion qui est très volatile. Et c'est pas sa priorité aujourd'hui sur les réformes qu'il veut mener pour la France. C'est-à-dire que lui, dans des réformes économiques. Ouais, et la question migratoire, il ne faut pas qu'elle l'entrave.
C'est ça, oui. Alors, Christophe Pirel.
Tant qu'on répond à ces questions-là, justement, en partant du principe que ça va plaire ou pas plaire à l'opinion publique, je suis désolé, on ne traitera pas la question migratoire. Et vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez. De toute façon, ça les frontières jamais, européennes, la façon dont c'est géré, tout ça est pour eux. Et à leur rigueur, effectivement, le seul truc qu'on peut faire, c'est ne pas accueillir un bateau. Mais franchement, cette loi, elle durcit plein de choses, mais elle ne traite pas le problème à la racine. Les vraies négociations, elles étaient justement avec Merkel, elles étaient au niveau européen. Là, par exemple, la question de Dublin 3, encore une fois aujourd'hui, on n'en a pas parlé. Pourtant, c'est un des sujets centrales, justement, qui peut faire changer la question de l'accueil des migrants dans l'Europe. Donc, on fait des lois répressives, on fait des lois de rejet, mais c'est à peu près tout ce qu'on est capable de faire. Et sur l'avis d'Emmanuel Macron, moi, je sais juste une chose, je suis pas sûr qu'il ait eu un avis un jour en fait sur cette question,
mais
parce qu'il
est
assez changeant.
C'est de se répartir les migrants qui arrivent.
Non, mais je pense que c'est une des solutions, parce qu'aujourd'hui, on demande à certains pays de totalement absorber, c'est-à-dire que par exemple l'Italie a énormément accueilli, donc effectivement ça fait monter les populismes. Vous vous retrouvez dans la situation dans laquelle ils sont, et aujourd'hui il y a une forme de rejet complet. Nous on n'a pas été très accueillants au niveau de la France. Je suis désolé, on peut prendre les chiffres. On était très très en retrait sur cette question-là. Mais la question surtout c'est le traitement à la base et de la cause des migrations. C'est les conflits et les questions environnementales qui vont en plus rajouter des migrants sur la route. Donc je suis désolé, tant qu'on ne traite pas ces deux questions-là, on peut continuer à faire des lois répressives, ça ne servira à rien.
Sylvie Vincent, bon, il y a aussi, ce qu'on nous dit aussi dans la majorité, c'est qu'ils disent qu'il y a un principe de réalité. C'est-à-dire que quand on est en campagne électorale, ce n'est pas comme être au pouvoir. Et à un moment, on se rend compte, on est confronté à la réalité.
Il y a un moment où on n'est pas en campagne électorale.
Je ne sais pas, je vous cite aujourd'hui ce que disent certains. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce principe de réalité qui a rattrapé Emmanuel Macron?
Mais le principe de réalité, Macron, là où il est surprenant, c'est que dans le discours qu'il avait, le personnage qu'il tenait, il y avait un côté très libéral à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'au fond, le migrant, c'est aussi...
un entrepreneur.
Voilà.
C'est un gars qui bouge.
Il est vrai que si vous avez traversé la Méditerranée dans un petit bateau et que vous avez survécu à tout ce périple, vous avez quelques compétences quand même, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pensais qu'il aurait une espèce de discours sur donnons nos chances aux plus entreprenants, aux plus malins. Il y a des tas de coins en France qu'on peut... Les Italiens, ils ont fait ça. Ils ont repeuplé des villages avec les migrants. Et dans le sud de l'Italie, des choses qui étaient des villages qui étaient vraiment en déshérence. Donc, on pouvait attendre un discours comme ça. Or là, il a l'air dépassé par la situation. Je pense qu'il n'arrive même plus à tenir son propre personnage. Ce qui est vrai aussi dans d'autres domaines.
C'est pour ça qu'il l'a Gérard Collomb en avant.
Oui, il a fait quand même un effet de translation politique sur sa droite. Il met à mal actuellement les Républicains. C'est pas pour avoir un discours pro-immigration, immigrationniste, et on accueille, et l'immigration c'est une chance pour la France. Donc il est sur un créneau où il sait que sur sa gauche, de toute façon, ça va être difficile de récupérer beaucoup de voix du premier tour de 2017. Donc, il préempte ce centre droit, ce centre et sa droite.
Vous voyez, Jean-Mathieu, on est toujours en campagne.
Il y a forcément une visée électorale.
Une chose que vous affirmez, elle aussi, le fait qu'elle soit portée par des anciens socialistes aussi, Gérard Collomb et le rapporteur aussi de la loi.
Non, mais je vous l'ai déjà dit, Gérard Collomb, il était socialiste comme moi, je suis anglais.
Peut-être vous l'êtes, je ne sais pas. Aussi.
Non, je ne suis pas.
Ah, bon,
non, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que Emmanuel Macron, il récupère quand même les questions de migration quand vous avez un jeune malien qui sauve un enfant. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, le migrant devient quelqu'un qui peut apporter quelque chose à la société, etc.
Bah, c'est un souple, exemple. Sportif,
sauf que l'exemple, c'est que quelques jours plus tard, effectivement, il y a un bateau qui arrive et que là, tout d'un coup, il faut donner une réponse politique. Et là, il n'y a plus de réponse politique. Et c'est ça qui me dérange profondément. Après que ça soit porté par Gérard Collomb, je vais vous dire un truc. Gérard Collomb est un ancien socialiste qui a fait ses choix. Aujourd'hui, dans le propos qu'il tient, c'est plus un homme de gauche.
Allez, dans un instant, on va parler de la SNCF. On parlera aussi communication avec le parler cash, on va l'appeler comme ça. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Jeudi 21 juin,
France Inter fête la musique à l'Olympia.
Avec, de 20h à 1h du matin,
Ben Harper,
Jane,
Eddie Depreto,
Parcells,
Camille,
Rougel
et un DJ set d'Arnaud Robotini.
France Inter fête la musique à l'Olympia.
En direct et en public.
À vivre jeudi 21 juin à partir de 20h sur France Inter.
Et sur franceinter.fr.
France Inter, une radio de Radio France. La Coupe du Monde de football 2018, c'est en direct sur France Info.
Le stade retient son souffle, frappe du pied droit et trouve la lucarne de Dorea.
Suivez tous les matchs des Bleus en intégralité.
Ce sera pour cette fois-ci la frappe et l'arrêt magnifique de Hugo Lloris.
Le pénalty est marqué. Griezmann vient d'ouvrir le score pour l'équipe de France de football.
France Info, 2 points, ouvrez l'info.
France Info Météo avec Aramis Auto, le spécialiste de la vente de voitures sur Internet. 2000 modèles et 30 marques à découvrir sur aramisauto.com et dans les agences Aramis Auto.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Du beau temps demain, du soleil pour commencer la journée. Il faudra tout de même composer avec quelques plaques de grisaille vers la Champagne, dans les vallées du Massif central, des Alpes ou alors au sud de la Garonne. C'est de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais que les nuages bas seront les plus nombreux. La bonne nouvelle, c'est que ça ne durera pas. On profitera du soleil partout l'après-midi. Juste quelques nuages en montagne, parfois une averse, voire un coup de tonnerre sur le sud des Alpes. Côté thermomètre, 11 à 18 degrés le matin, jusqu'à 23 pour le sud-est. L'après-midi, de la chaleur, 20 degrés au Havre, 24 à Lille, 27 degrés à Rennes, 29 à Paris. Il fera 30 degrés à Nantes, Nancy et Bastia, 32 à Bourges et à Lyon, 33 degrés à Limoges, Agen, Valence ou alors Marseille. Ça ne va pas durer. Dès jeudi, ça baissera par le nord. Il ne fera plus que 22 degrés au Mans, à Paris ou à Metz.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Il parle d'un choix de civilisation. Emmanuel Macron vole à la rescousse d'Angela Merkel sur la question des migrants. Après 3 heures de réunion près de Berlin, le chef de l'État français et la chancelière allemande ont donc annoncé qu'ils travaillaient à un accord entre plusieurs pays de l'espace Schengen pour refouler tout demandeur d'asile vers l'État où il a été enregistré en premier. Les contreparties pour les pays concernés, comme l'Italie ou la Grèce, restent encore floues ce soir. Les pays de l'Union européenne qui, eux, planchent sur la création de plateformes régional de débarquement en dehors du territoire de l'Union pour les migrants secourus en mer. Il s'agirait de distinguer les migrants économiques et ceux qui ont besoin d'une protection internationale. Le texte sera soumis à l'approbation des dirigeants européens lors de leur réunion des 28 et 29 juin la semaine prochaine. Les syndicats qui se déchirent à la SNCF réunion cet après-midi, 2 des 4 centrales, l'UNSA et la CFDT se retirent de la mobilisation après fin juin. Sudrail prend ses distances, reste la CGT. Le 28 juin sera donc le dernier jour du mouvement unitaire, près de 3 mois après le début de la contestation contre la réforme du rail. Les différents acteurs n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente. Raphaël Ebenstein.
Pas de cri ni d'éclat de voix, mais un constat lucide à la sortie. L'intersyndicale contre la réforme ferroviaire a vécu trop de divergences entre les 4 organisations syndicales pour poursuivre la grève cet été. Le calendrier de la CGT, qui voulait finalement cibler le seul week-end du 6 et 7 juillet au moins au début, a été rejeté. Sudrail, seul allié possible en fait de la CGT, n'en a pas voulu, préférant plutôt faire grève lors de jours qui ont vraiment du sens et sans fixer les dates trop à l'avance. Quant à la CFDT, si elle n'appelle pas encore officiellement à suspendre la grève comme l'UNSA, mais c'est ce qu'elle sous-entend avant une décision formelle le 26 juin. Mais personne ne veut insulter l'avenir. dire. Les différents responsables syndicaux n'ont pas exclu de se retrouver à la rentrée pour de nouvelles actions communes afin de faire pression sur les négociations de la convention collective du secteur ferroviaire.
Raphaël Ebenstein, plus de 600 demandes de communes de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle en cours d'instruction après les intempéries qui ont touché une large partie de la France au début du mois. Les dossiers seront examinés au plus tard le 17 juillet, promet le gouvernement. Les apiculteurs reçus à l'Élysée, ils réclament une aide d'urgence après un hiver qui a vu une mortalité anormale de leurs abeilles de l'ordre de 30% contre 5% avant l'introduction des néonicotinoïdes, des insecticides utilisés pour les semences et qui s'attaquent au système nerveux des pollinisatrices. Un revers pour Marine Le Pen. La justice européenne de l'Union européenne confirme que la présidente du Front National doit rembourser près de 300 000 euros au Parlement européen pour l'emploi douteux d'une assistante quand elle était eurodéputée. 20h33, les informer la suite.
20h, 21h, les informer. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils rêvent d'être un petit peu les mascottes de l'actualité justement. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Albert Zenou du Figaro, Cécilia Gabizon, directrice de la Street School, Christophe Pirel, ancien directeur de cabinet de François Hollande, et Sybille Vincendon de Libération. Bon, d'accord, je viens, mais j'espère qu'il y a du wifi pour regarder le match. Voilà en gros ce qu'a dit l'UNSA au reste de l'intersyndicale SNCF qui se réunit depuis 18h. Le syndicat a expliqué hier vouloir sortir de la grève après le 28 juin, brisant ainsi l'intersyndicale en vigueur depuis le début du conflit du rail. La CGT avait proposé de continuer la mobilisation les 2, 6 et 7 juillet. Sudrail souhaite des dates de grève plus ciblées, alors que la CFDT a remis la poursuite de la grève au vote de ses adhérents. Ici gît le Front Unitaire, mais le combat est-il terminé pour autant? Pas vraiment, selon François Montelbert de l'UNSA Ferroviaire.
On va s'inscrire au-delà dans un calendrier qu'on aura à définir de façon unitaire. Ce sera des actions qui n'auront pas lieu pendant les mois de l'été, c'est-à-dire juillet et août, et qui seront sur des cibles bien précises. Ça peut être effectivement lors de négociations de la convention collective que nous pourrions avoir des temps forts de mobilisation pour peser sur ces choses-là. Naturellement, on ne s'inscrira pas au-delà du 28 juin prochain.
Voilà, Fernand Montaillet de l'UNSA Ferroviaire. Donc ce son a été enregistré dans l'après-midi parce que l'intersyndicale est encore en réunion pour savoir ce qu'ils vont décider. Sybille Vincendon, est-ce qu'un combat contre l'application de cette réforme, est-ce qu'il peut être mené sans front uni, justement?
Mais je me demande s'il peut être mené tout court.
Ouais.
La question que je me pose, moi, en ce moment, c'est plutôt qu'est-ce que la SNCF va devenir? Parce que l'État s'est engagé à reprendre 35 milliards de la dette, donc j'attends de le voir faire. Pour commencer, parce que c'est une chose de le dire et une autre de le faire. Et je me demande aussi comment l'entreprise va sortir de ça, parce que après tout, elle va pas mourir demain matin. Donc il faut bien quand même que ça continue à fonctionner, que ça continue à se développer, et de préférence d'une manière commerciale un tout petit peu moins obscure pour les usagers. Parce que je sais pas si vous avez réussi à comprendre quel est le prix d'un billet de train aujourd'hui en France.
C'est très clair maintenant. Moi, je le prends très, très souvent. Oui, je peux dire que les choses sont quand même bien cadrées maintenant dans la SNCF en termes de tarifs. Non, non, je pense que c'est un faux procès qu'on fait depuis quelques années.
Il y a une forme de légende urbaine sur la SNCF. On va vendre 1 million de billets Prums.
Oui, mais parce qu'ils ont, des tarifs d'entrée maintenant comme toutes les compagnies aériennes et ferroviaires, c'est-à-dire que vous avez une politique de premier prix, d'appel, pour remplir les trains dans un premier temps, sur longue durée.
Non, je sais comment ça marche.
Non, mais globalement, c'est assez lisible.
Mais
la politique tarifaire de la SNCF est quand même bien lisible maintenant depuis quelques temps. Il y a un vieux procès qui est fait à la société SNCF, justement, de ce type-là, qui n'est pas lisible, soi-disant que les trains arrivent en retard, alors que pas tellement, en fait, quand on compare aux autres pays.
Il peut y avoir quand même certaines lignes, je vous assure.
Mais bien sûr, ce que je veux dire,
c'est d'ailleurs le problème, c'est la question que beaucoup de gens ont posée à propos de cette réforme. Est-ce que ça va permettre au train d'arriver à l'heure? Voilà, c'est des questions toutes simples, mais
globalement, dans les pays où ça a été fait, comme en Grande-Bretagne, ça n'a pas permis au train d'arriver à l'heure. Donc, je suis pas certain que ça soit une bonne idée. Mais enfin, l'avenir de la SNCF, c'est quand même aujourd'hui de savoir est-ce que c'est un service public ou est-ce que c'est pas un service public, parce que c'est quand même la question centrale. Et est-ce que dans les territoires notamment où le train n'est pas rentable, il y aura encore du ferroviaire demain?
C'est
des choses qui m'habitent quand même beaucoup plus que la grille tarifaire de la SNCF.
C'est difficile de poser cette question quand le passé assez récent de la SNCF a été de faire des choix de certaines lignes, des choix de la grande vitesse, d'avoir abandonné.
C'est le choix de l'État.
C'est aussi le choix de l'entreprise quand même. C'est une entreprise d'ingénieurs et je comprends que ça les botte plus de faire des grands projets de grande vitesse plutôt que de maintenir
tous les grands investissements ont été portés par la SNCF au nom de l'État.
On va revenir juste au syndicat. Est-ce que Cécile Cabizon, le fait de continuer aussi la grève pendant le bac, on se souvient, ça avait déjà un peu fendu cette unité syndicale.
Non mais alors je vais vous faire une analyse de haut vol, vous allez voir, c'est scandaleux.
Très bien.
Voilà. C'est scandaleux. C'est à un moment donné. Attends, on s'est tapé combien? 3 mois de grève. Moi, je prends souvent le train aussi.
Perlé.
D'accord. Mais perlé, mais bien réel, parce qu'en plus, pendant ce temps-là, les tarifs avaient monté parce que les trains étaient pleins. Donc, de grève, soit perlé, mais qui a énormément gêné les régions, les gens. On te parle de mobilité, de la vie moderne, etc. Tu investis, tu développes des endroits, et en fait, c'est impossible d'y aller parce qu'il y a 3 mois de grève SNCF. La loi est votée, et maintenant, au nom d'enjeux électoraux internes aux syndicats, la grève va continuer pendant des jours de bac, pendant des jours d'examen, ou pendant des jours de vacances. Mais attends, à un moment donné...
Je précise juste pourquoi il continue, en fait. C'est pas forcément contre la loi, c'est contre par rapport à la convention collective. Aujourd'hui, c'est ce qui se négocie aujourd'hui au ministère des Transports. C'est ça aussi. Bien sûr, il y a toujours aussi la grève. Il y a le CPE. Il y a aussi le président du CPE. Cette loi a été promulguée et derrière, elle avait été retirée. Albert Zemmour.
Alors, je reviens sur la qualité de service. C'est vrai que la qualité de service est quand même assez déplorable pour les petites lignes et les lignes de banlieue. Pour les grandes lignes, les TGV, effectivement, les trains sont à l'heure, arrivent à l'heure. Pour terminer sur ce point. Mais ce qui se joue aujourd'hui avec la fin de cette grève unitaire, puisque en gros, les syndicats réformistes appellent à reprendre le travail, vont sortir du mouvement, et la CGT annonce qu'elle
pourrait continuer.
Mais on voit bien qu'il y a des enjeux, comme le disait Cécilia, il y a un enjeu électoral interne à la SNCF, un marketing électoral et marketing syndical qui fait que la CGT est obligée se sent obligée de continuer la lutte. Alors pourquoi? Parce que il faut absolument que en interne il y ait encore la CGT qui soit première.
Alors
c'est une question de la grève aujourd'hui,
c'est pas qu'elle a échoué, mais on sent que ça s'enlise, c'est-à-dire que les choses sont plus difficiles, le taux de grévistes commence à diminuer. En fait, ce moment-là devrait plutôt être la logique de dire trouvons d'autres moyens de mobilisation plus acceptables pour notamment les usagers, parce que les vacances arrivent, ne soyons pas les ennemis des Français, ça pourrait être ça, surtout la réflexion qui devrait y avoir entre la CGT, l'UNSA, la CFDT, etc. De se dire, peut-être qu'on a d'autres moyens d'action que de tout bloquer, et que les usagers en plus nous en seront reconnaissants. Moi je suis persuadé que ça devrait être ça leur logique, parce que comme ça, ils pourraient remobiliser les usagers et les rallier à leur cause. Parce que moi là où je suis pas d'accord, c'est que sur la qualité de service. La qualité de service, elle est mauvaise, non pas par la faute des agents SNCF, mais parce que les investissements sont plus faits. Sur les lignes secondaires, le problème, c'est qu'il n'y a plus d'argent qui est mis, de la part de l'État notamment, et qu'on a tout mis sur des TGV. Alors certes, maintenant, on relie Bordeaux en 2 heures. Mais alors, par contre, pour faire de chez moi à Gap jusqu'à Marseille, on met 1h30 en voiture et on met 3h20 en train, vous m'expliquez? C'est parce que les investissements n'ont pas été faits depuis. Et c'est ça qui ne va pas. Et l'État peut dire ce qu'il veut. À un moment, c'est un enjeu de service public et d'aménagement du territoire et d'équilibre des territoires. C'est ça le sujet central.
On va parler encore de la SNCF dans un instant. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Il n'y aura pas de grève unitaire à la SNCF en juillet. Le syndicat UNSA l'a annoncé dès cet après-midi. Il n'ira pas au-delà du calendrier fixé jusqu'au 28 juin. Une intersyndicale s'est tenue ce soir pour étudier les suites de l'action des cheminots contre la réforme ferroviaire. Le Mexique condamne la cruelle et inhumaine séparation des familles de migrants aux États-Unis, selon ses propres termes. Déclaration ce soir, alors que l'ONU le contestait hier. Donald Trump le martèle. Quand les parents sont interpellés à la frontière avec les États-Unis, il faut les séparer. Et séparer les enfants, c'est déjà le cas pour 2000 d'entre eux en quelques semaines. La France et l'Allemagne d'accord pour créer un budget de la zone euro. Confirmation d'Emmanuel Macron et Angela Merkel depuis Berlin. Le président de la République le précise. Ce sera dès 2021 un vrai budget avec des dépenses et des recettes alimentées par des contributions nationales, renchérit la chancelière allemande avec une éventuelle taxe sur les transactions financières. La Fondation Abbé Pierre dénonce une nouvelle baisse des APL, un manque à gagner de 4,20 € par foyer. Selon l'association caritative, ces aides au logement ne seront pas indexées sur l'inflation cette année. Elle appelle le gouvernement
gouvernement a renoncé à ce projet un an après la baisse généralisée des APL. Et puis toujours zéro partout entre la Russie et l'Égypte. C'est actuellement le deuxième match des Russes dans ce mondial de foot.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, mais à quelle heure sortiront-ils, hein? Les paris sont lancés, pour une fois on ne parie pas sur le football, mais sur les syndicats de la SNCF qui sont réunis en ce moment dans une intersyndicale. Justement, est-ce qu'il faut la continuer, cette intersyndicale? Pour l'instant, l'UNSA n'est pas trop favorable, hein, à continuer après le 28 juin. La CGT souhaiterait continuer pendant les vacances. Sudrail s'interroge comme la CFDT. Qu'est-ce qu'ils ont gagné d'ailleurs dans ce conflit, les syndicats, Sylvain Sandon?
Le sac à dos social.
La dette. Ouais. La dette.
Et la dette.
Et la dette, c'est ça. C'est quand même 35 milliards, excusez-moi.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait du reste des 35 milliards? C'est pas que 35 milliards.
Il y avait la question du statut, mais c'est la convention collective.
Non, mais je veux dire, dans la dette ne fait pas que 35 milliards. Ah oui, c'est toujours pas ce qui se passe pour la suite.
Non, c'est pas.
Albert Zemmour.
C'est une des grandes interrogations de cette réforme. Effectivement, 35 milliards, on parle de 50 milliards de dette. Donc l'État en prendrait 35. On ne sait pas comment il va payer. Enfin, on sait.
On imagine. On imagine.
Des détails.
Mais par contre, le train sera gratuit.
Mais et les syndicats, effectivement, n'ont pas réussi à aller au-delà de ça.
Mais ils ont quand même un levier, c'est que l'ouverture à la concurrence va se faire, et l'histoire du sac à dos social, alors quand vous êtes contrôleur, peut-être que c'est un peu moins fort, mais quand vous conduisez des trains, c'est vrai que
symboliquement,
le repreneur aura besoin de cette compétence.
Symboliquement, la CGT et les syndicats révolutionnaires, entre guillemets, ont perdu beaucoup. Il y avait encore l'idée que depuis 95, on n'osait pas aller à l'encontre de la SNCF, changer le statut. C'était impensable parce que il y avait l'idée que le pays serait à feu et à sang et que le gouvernement serait obligé de céder. Eh bien non. Donc sur ce coup-là, les syndicats ont vraiment perdu une bataille.
Alors à propos de bataille, Cécile Gabizon, la CGT, ils disent non, on continue aussi parce que c'est un combat idéologique, en fait, pour eux. C'est-à-dire que on est dedans, c'est-à-dire qu'il y a une transformation pour eux totalement libérale, ça serait ça, hein, le plan, une transformation libérale avec ce premier acte qui serait la SNCF. Est-ce qu'on est là-dedans, dans cette combat idéologique, finalement?
Oui, mais c'est pour ça que moi, je me réjouis pas du fait que la CGT ait perdu et que, quelque part, les défenses traditionnelles aient été enfoncées. Mais par contre, ils ont absolument pas rallié les citoyens, les usagers, le service public. En fait, on est tous le service public et on devrait l'être pratiquement au même titre qu'eux. Ça serait un bien commun, le service public, dont ils seraient les acteurs à un moment donné. Mais ça existe, tout ça. C'est-à-dire que si on se valorisait les uns les autres, c'est un peu ce que tu disais sur la co-construction de c'est quoi ce service public. Mais à aucun moment, en fait, en prenant, c'est toujours pareil quand même, les usagers, c'était quand même un peu la grève perlée deux jours par semaine ou trois jours par semaine pendant trois mois et en continuant alors qu'elle est votée pendant des périodes de bac. Donc oui, alors c'est une grève idéologique.
Une grève qui embête personne, ça risque pas de pouvoir être très utile. Mais
c'est
le principe.
Mais peut-être à un moment donné,
mais qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est pas tellement la question.
C'est
une grève qui gêne personne, autant ne pas la faire.
Mais à un moment donné, si c'était l'occasion de co-construire le projet de la SNCF, ce que je veux dire, c'est que c'était une grève qui semblait...
Alors c'était la communication de Macron. Ça a été mené. C'est-à-dire que quand l'État arrive, le gouvernement arrive...
Comment on peut co-construire un projet de service public quand le parcours de la SNCF dans les 20 dernières années a été de devenir une entreprise de plus en plus commerciale? Enfin, n'importe qui habite en province, qui a de la famille en province, sait que la ligne machin, truc muche, a été supprimé il y a deux ans. C'est partout, on entend ça. Donc, effectivement, les gens, ils ont vécu la SNCF comme quelque chose qui faisait un virage sur l'aile vers le commercial, pas toujours très habile, et qui mettait le paquet sur le TGV, le Thalys, et tous les trains
Rappelons tout de même qu'il y a une obligation aussi européenne derrière tout ça,
sur l'ouverture à la concurrence. Mais justement, le vrai débat, ça aurait été celui-là. Au lieu de dire on va passer en force, la loi elle va aller vite, et puis on aurait eu un grand débat justement sur le ferroviaire, le service public ferroviaire, la mobilité, les transports, etc. Et on se serait dit, de toute façon, l'ouverture à la concurrence étant imposée, comment on fait en sorte justement d'avoir un vrai service public, ferroviaire, etc. Ou est-ce qu'il faut séparer les choses, et qu'on mette tout le monde dans cette dynamique, c'est-à-dire les usagers, les cheminots. Là, on dit, on va passer par ordonnance, ça va aller plus vite. Et puis le débat, on veut le faire après. Ouais. C'est complètement ubuesque. C'est-à-dire que allez, c'est comme sur toutes les lois en ce moment. Sûr. On fait le c'est débat méthode, quand oui. les choses sont déjà passées. Ça n'a pas de sens.
On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir en attendant, d'en savoir un peu plus hein, sur la suite à donner à ce mouvement entre syndicats réformistes et les autres. S'il y a encore un front unitaire ou pas, apparemment non, puisque l'UNSA a décidé de ne pas prolonger la grève après le 28 juin. Allez, on va parler un petit peu de vidéo maintenant, puisque une vidéo par semaine diffusée sur les réseaux sociaux. En fait, le but d'Emmanuel Macron n'est pas d'être président, mais youtubeur, si on comprend bien. Moi, si j'étais Norman ou Squeezie, je me méfierais. Après la vidéo du trop de pognon pour les aides sociales, le compte d'Emmanuel Macron a mis en ligne hier son apostrophe survenue où il reprenait un adolescent l'ayant appelé Manu et l'incitant à se mettre à ses études avant de faire la révolution. Que ce soit avec des agriculteurs, des ouvriers de chez Whirlpool ou face à des journalistes, le chef de l'État opte souvent pour des formules cash, pas toujours des plus élégantes. Alors chaque sortie de la sorte est commentée, analysée, disséquée, le plus souvent préparée pour montrer une image un peu proche du peuple. Hein. Le parler cash en politique, alors est-il efficace? Surtout, il n'est pas du tout nouveau, hein, parce qu'ils l'ont tous employé, quels que soient les chefs d'État, quels que soient les hommes et femmes politiques. Petit florilège de phrases marquantes du personnel politique bien éduqué, ça commence assez tôt avec Jacques Chirac.
Un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur...
C'est toi qui as dit ça ? Bah descends un peu le dire. Descends un peu. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs...
C'est vous les médias qui faites un travail de merde. Il faut réfléchir avec sa tête. Sous les cheveux là, et après il y a des os, et merci. Dessous il y a un truc gris, ça s'appelle un cerveau.
L'électorat. Qui a voté dans la deuxième circonscription de Paris aujourd'hui est à mes yeux à vomir.
Voilà, donc tout simplement, là c'était Henri Guénaud pour terminer, avant Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac. Alors, juste pour revenir sur Emmanuel Macron, d'après vous, Cécile Gabizon, il s'est fait une spécialité de ce genre de sortie. On se souvient, au salon de l'agriculture, par exemple, il avait dit, il faut arrêter d'emmerder les Français, par exemple sur le vin, les 80 km/h. Il sait très bien ce qu'il provoque avec ça.
Ouais. Et il le fait bien, alors en tout cas ça provoque bien. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est à répétition. Il aime le conflit. En fait, il aime le conflit. On l'avait déjà vu dans ce film de campagne où les rapatriés l'attendaient. Et il voulait y aller pendant que son cabinet disait non, on n'y va pas. Et il voulait y aller. Il aime en découdre. Je pense qu'il est un peu en manque de testostérone et de confrontation par certains côtés. Donc il aime le conflit et il y va. Après, qu'est-ce que ça apporte? Parce que là, on a glosé sur qu'est-ce que ça apportait. Ben nous, enfin, je dirais que moi j'ai pris plutôt le côté du gamin. Qui est que c'était trop quoi, il l'a complètement écrasé et puis finalement c'est toujours
pas
le même
trop difficile,
voilà
hein.
Et c'était toujours un peu le même message, c'est en gros tant que t'as pas réussi t'as pas le droit de dire quoi que ce soit quoi. Et c'est la même chose pour le costard, et c'est la même chose, et je suis pas sûr que ce soit ça un discours de développement et de respect de la fonction.
On voit bien que quand il parle aux gamins, aux collégiens hier après-midi, il ne parle pas aux collégiens, il parle à la France. Quand il fait la leçon aux collégiens, il fait la leçon à la France. Alors certes, il...
Pour vous, on est dans la même séquence que quand il était dans la Creuse, quand il dit qu'il ferait mieux d'aller chercher du boulot que de manifester. C'est pareil.
Je pense que c'est symboliquement, c'est le même message qu'il fait passer. Il vient. Alors effectivement, il veut incarner la France. Il veut incarner la fonction. Alors.
Bon, il en fait des tonnes pas content, pour mais
par rapport
incarner
à,
la
à, par rapport à François Hollande avant, il est dans l'incarnation absolue du chef de l'État. Et il vient dire ce qu'il faut dire.
Mais il est tellement dans l'incarnation de ça que il ne se contente pas de lui dire Monsieur le Président et de passer à autre chose. Il en rajoute avec ce gamin de 15 ans.
Toute la difficulté, c'est qu'il est passé de donner la leçon à faire la leçon.
Ah ouais,
ça, on va continuer à parler dans un instant. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Et la CGT dira demain ce qu'elle entend mener comme action cet été contre la réforme du ferroviaire pour juillet, août et septembre, selon le représentant syndical Laurent Brun. L'UNSA, dès cet après-midi, annonçait qu'il n'irait pas au-delà du calendrier de grève fixé au 28 juin. Les résultats de l'intersyndicale qui s'est réunie ce matin, qui s'est réunie il y a encore quelques minutes, pardon, à Paris. Les syndicats claquent la porte d'une réunion de concertation sur la fonction publique. Ils protestent contre le maintien du gel de la valeur du point d'indice, une annonce la veille du secrétaire d'État à la fonction publique, Olivier Dussopt. 348 gilets de sauvetage devant le Sénat, autant que le nombre de sénateurs. Le rassemblement symbolique d'un collectif de bénévoles d'aide aux migrants aujourd'hui contre le projet loi asile-immigration. Le texte arrive devant les sénateurs. La ministre Jacqueline Gourault rappelle que les mesures seront principalement pour lutter contre l'immigration illégale. Des pluies torrentielles en côte Côte d'Ivoire. Le bilan passe ce soir à 18 morts à la suite d'inondations sur Abidjan. Une centaine de personnes ont été mises à l'abri. C'est un lourd bilan déjà enregistré les années précédentes en pleine saison des pluies dans la capitale économique ivoirienne. Sur un air d'accordéon, ce matin, l'église Saint-Roch de Paris, des célébrités comme des anonymes ont rendu un dernier hommage à Yvette Horner, présent notamment le grand couturier Jean-Paul Gaultier qui avait travaillé avec la reine du Musette dans les années 90. Yvette Horner sera inhumée demain dans sa ville natale de Tarbes.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on parle de communication et du parler cash. Vous le savez, Emmanuel Macron a recadré un adolescent lors des cérémonies du 18 juin. C'était hier, la vidéo a fait le tour du net. Elle a même été diffusée par le compte officiel du président de la République, donc le compte d'Emmanuel Macron. Mais le parler cash aussi, Christophe Pierrel, on n'a pas forcément besoin de revenir encore dessus, parce qu'on en a parlé hier soir. Mais ce parler cash, que ça veut dire vraiment que la parole présidentielle a changé aussi ces dernières années? Est-ce que le fait qu'on consomme beaucoup aussi de cash sur les réseaux sociaux, ça fait qu'on change beaucoup? Nicolas Sarkozy, on l'a entendu, était assez comme ça. François Hollande aime bien faire des petites blagues, on l'a entendu encore récemment.
Oui, mais moi, il n'était pas dans votre bobino des coiffres.
C'est vrai.
Mais je ne sais pas si c'est la forme de la parole présidentielle qui change, ou c'est surtout parce que la communication a changé. Regardez, la phrase sur le pognon, quand elle sort, c'est quand même le jour où il ne veut pas parler de l'Aquarius. Et autant changer de sujet, c'est-à-dire en balançant sur une vidéo, sachant que le soir, il a un discours fleuve à Montpellier. Un discours à Montpellier et où on sait qu'on ne retiendra rien parce qu'il y a eu tellement de choses, c'était tellement complet. Donc il a compris aussi que la communication aujourd'hui, c'était des choses directes, simples, efficaces. Sauf que du coup, on ne parle plus jamais de fond. Donc c'est un peu le vrai sujet. Après, sur la vidéo d'hier avec ce jeune de 15 ans, c'est un jeune de 15 ans, quoi. C'est facile. Non mais c'est d'une simplicité sans nom, c'est-à-dire qu'en fait, il est président de la République, il a 15 ans. C'est presque d'ailleurs très humiliant et puis je préférais, si vous voulez, qu'il soit fort comme cela, face à Trump, face à Poutine, dans un débat international, plutôt que d'être traité comme un petit garçon justement par Trump. Je pense que ça serait plus juste et ça aurait un peu de gueule qu'il soit comme ça justement face à ceux qui nous posent des vraies difficultés. Ce gamin de 15 ans nous en posait pas vraiment.
Et j'encourage tout le monde juste à aller voir véritablement cette vidéo et la suite en fait, parce que il y a un autre enfant à côté, enfin qui doit avoir 15 ans, qui lui serre la main, Emmanuel Macron, et qui lui pose une question, c'est quand est-ce que vous allez supprimer le CICE? Et c'est vrai que quand on a 15 ans, on ne pense qu'à ça en fait. C'est vrai, au CICE.
Justement, c'est ce que je
voulais
dire.
Mais il était payé par la vidéo spectacle.
À partir du moment où Macron décide de lui-même de mettre en ligne sa propre vidéo, et il dit ce qu'il veut dire, et toute la séquence qui est assez longue, parce qu'il revient, il sait qu'il est allé un peu trop loin avec le jeune de 15 ans. Donc il revient pour s'expliquer et pour avoir une discussion un peu plus
pour lui redonner une leçon de morale.
Ce qui est intéressant à mon avis, c'est que effectivement, il est face à des jeunes très bien élevés. Certes, il a dit Manu, comment ça va Manu,
mais il s'excuse
tout de suite.
C'est-à-dire
qu'il accepte, à l'inverse, il accepte de faire des selfies avec d'autres jeunes. Là, ça le dérange pas de ne pas incarner la fonction présidentielle.
Il faut pas oublier que sur la photo présidentielle officielle, il y a un smartphone aussi, donc faut pas l'oublier ça. Cécile Gabizon, est-ce que aussi on est quand même dans une époque, comme disait Christophe Pirel, sur la complexité, c'est-à-dire qu'on voit par exemple un homme. Je compare pas du tout Emmanuel Macron et Donald Trump, mais Donald Trump, on le voit, parle très cash, d'une manière comme ça. Est-ce qu'on est aussi dans cette époque-là où on a l'impression qu'on parle en tweet, quoi? Ça veut dire il y a un moment, il faut parler directement, durement pour être compris. C'est-à-dire qu'on a du mal avec la complexité.
Oui, bien sûr. Faut émerger dans l'infobésité, dans la lassitude, dans l'essorage émotionnel. Donc, faut aller toujours plus loin, quoi. Toujours plus loin parce qu'on est enseveli sous les contenus. Et en fait, on a le cœur qui bat doucement. On réagit pas trop. Donc, faut taper fort. Et de plus en plus fort. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est, en fait, même toute la communication, notamment les réseaux sociaux, on en parle, quoi. Toute la communication, en fait, aujourd'hui, notre sensibilité s'est émoussée parce qu'on est sans arrêt, amené à vivre des émotions qui sont artificielles par tout ce qu'on voit. Et donc, faut monter dans les tours pour faire réagir les gens. Donc faut aller toujours plus fort en simplifiant plus. Et c'est vrai que alors là sur Macron, je pense que lui aussi, il est de son époque.
Moi j'ai ce souvenir quand même fort où quand François Hollande faisait des discours des fois profonds avec des annonces, des choses importante pour le pays, où dans les médias on ne retenait rien, sauf la cravate de travers, l'anecdote. En fait, on est dans une société de l'anecdote. Donc évidemment,
dans la société du spectacle.
Aujourd'hui, on est obligé de faire des tweets, des machins.
Bon. On va pas diffuser tous les discours. Vous vous rendez compte?
Mais des fois, essayer de travailler à réfléchir, ça peut être pas mal.
J'aimerais que Trump soit considéré comme hors catégorie, car Trump ne fait pas seulement du spectacle et ne fait pas seulement des annonces, il fait des mensonges. C'est une autre chose.
C'est plus intentionnel. Exactement. Allez, il est temps pour nous, en tout cas, de baisser le rideau pour les informer de France Info pour aujourd'hui. Mais on revient demain, pas de panique. Merci beaucoup, Cécilia Gabizon, d'être passée. Merci, Christophe Pierrel. Merci. La Une de Libération, Sylvie Vincendon. Vous ne savez pas non plus, Albert Zenou.
Vous savez, c'est ça. Oui, c'est sur les parents qui demandent de l'aide pour. Sur la multiplication des écrans.
Très bien, d'accord. Et bien, c'est à retrouver demain dans Le Figaro. Il est temps pour nous de retrouver Jean-François Killy. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Au programme de Tout est politique ce soir.
Alors, la grève à la SNCF, la crise migratoire, le budget de la zone euro et le retour, l'éternel retour de François Hollande avec Stéphane Le Foll du Parti Socialiste, Cécile Muscotti de La République En Marche, Sébastien Chenu du Rassemblement National et Gigi Jean-Jérôme Bertolus de France Info.
Vous avez des petits noms. Tout est politique maintenant, dites-moi, c'est très mignon comme émission. Alors, en tout cas, elle est à suivre, Tout est politique, dans quelques minutes sur France Info.